Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Campagne de vaccination contre la COVID-19, la RDC a reçu au mois de mars dernier 1,7 million de doses de vaccins réparties en trois lots, dont le premier lot expire déjà ce 24 juin. Cependant, le programme élargi de vaccination rassure que la vaccination va se poursuivre car d'autres lots sont disponibles. À ce jour, plus de 45 000 personnes se sont fait vacciner. Par ailleurs, la directrice d'IPEV précise que les autorités sont en train de travailler pour élargir les types de vaccins qui seront proposés aux Congolais. Quelle évaluation faites-vous de la campagne de vaccination contre la COVID-19 et quelle stratégie le gouvernement congolais devrait mettre en place pour une adhésion massive de la population à cette campagne de vaccination? C'est l'objet de cette émission et nous recevons Dr Aimé Tshikomola, il est médecin directeur adjoint du programme élargi des vaccinations PEV-ASIGLE. Bonsoir Dr Aimé Tshikomola.
Bonsoir monsieur.
Professeur Gauthier Moussenge Mwanza, docteur en sociologie et professeur au département de sociologie à l'université de Kinshasa. Bonsoir professeur Gauthier Moussenge Mwanza.
Bonsoir monsieur le journaliste.
Et Dany Singoma, il est directeur général du SENADEP, coordonnateur de la dynamique citoyenne COVID-19. Il est aussi coordonnateur du cadre des consultations nationales de la société civile. Il n'est pas encore là, il va nous rejoindre. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nous l'avons dit dans les sommaires, la RDC a reçu trois lots de vaccins, dont l'un expire déjà aujourd'hui, 24 juin, un autre qui expire le 29 juin, et un dernier lot le 17 juillet prochain. C'est la directrice nationale du programme élargi de vaccination PEV qui l'a signalé. Dr Elisabeth Mukamba Musenga a précisé que les activités de vaccination vont se poursuivre. Elle indique jusqu'ici que plus de 45 000 personnes se sont fait vacciner. Elle ajoute que les autorités sont en train de travailler pour élargir les types de vaccins qui seront proposés aux Congolais. Dr Elisabeth Mukamba, directrice nationale du PEV, jointe au téléphone par Babel Pongo Masimango.
Ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons pas reçu que du vaccin qui expirait le 24 juin. Le pays a reçu trois lots de vaccins, celui qui expire à la date précitée, un autre lot qui expire le 27 juin et un autre un peu qui va jusqu'au 11 juillet. Donc les activités de vaccination vont se poursuivre. Entre-temps, il y a des initiatives qui sont mises en place pour acquérir d'autres doses de vaccins. Tout est mis en œuvre, effectivement, pour que nous puissions recevoir du vaccin avant le 11 juillet, oui, pour pouvoir poursuivre la vaccination et ne pas avoir à interrompre les activités. Le pays est effectivement en train d'exploiter les opportunités pour élargir le portefeuille des vaccins qui sont offerts aux Congolais. Mais il faut savoir que pour tous ceux qui ont reçu leur première dose d'AstraZeneca, étant donné qu'on ne peut pas changer le type de vaccin qu'on a reçu après avoir reçu la première dose, on les assure qu'ils vont pouvoir recevoir leur deuxième dose dans le délai qui est compris entre 8 et 12 semaines après la première dose.
Docteur Aimé Tshikomola, vous êtes médecin directeur adjoint du programme élargi des vaccinations PEV en sigle. Aujourd'hui, trois mois après avoir reçu les lots du vaccin AstraZeneca, plus de 45 000 personnes se sont fait vacciner sur toute l'étendue de la RDC. Quelle évaluation vous faites de la campagne de vaccination qui a commencé depuis le mois de mars dernier?
Merci beaucoup pour la question. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à tous les co-débatteurs, bonjour monsieur le journaliste. En effet, il est vrai que le pays a reçu les doses de vaccins autour de 1 700 000 doses au mois de mars. Cependant, nous avons perdu un peu de temps et, comme vous le savez, il y a eu quelques événements que AstraZeneca a connus, qui a créé pas mal de réticences par rapport à l'utilisation de ces vaccins au niveau de notre pays. Cependant, on a renvoyé notre lancement de la campagne au 19 avril. Donc, ça se fait que nous sommes à 2 mois de vaccination et même si nous avons reçu les vaccins, 3 mois plus tôt.
Oui, je voudrais savoir, docteur, 45 000 personnes sur une population estimée à plus de 80 millions d'habitants, c'est moins d'1%. Et qu'est-ce qui peut expliquer cette faible couverture vaccinale? Vous avez évoqué la campagne qui a été faite, n'est-ce pas, autour de ces vaccins AstraZeneca. Mais à part ces facteurs-là, il n'y a pas d'autres facteurs qui peuvent expliquer cette faible couverture vaccinale?
Bon, premièrement, dans un premier temps, on ne cible pas toute la population. On ne cible pas 80 millions de personnes. On ciblait juste la catégorie de population la plus exposée. Et ça représentait, dans un premier temps, 20% de la population. Et là, on devait les vacciner pendant une grande période, pas seulement les deux premiers mois. Alors, pour les deux premiers mois, nous avons retenu juste 500 000 doses. Donc, ça veut dire qu'on a ciblé 500 000 personnes pendant cette période. Et parmi les 500 000 personnes, on a vacciné environ 45 000. Effectivement, ça reste une couverture vaccinale faible. On l'admet, on a connu pas mal de problèmes, comme nous l'avons dit. Et ces problèmes, c'est notamment la mise en place des sites n'a pas pris de la vitesse vu l'étendue de notre pays. Et à ce jour, on n'a pas réussi à mettre en place 498 sites de vaccination qu'on devait placer. On a mis en place près de 55% des sites, donc 268 sites. Alors, nous sommes en train d'aller progressivement d'étendre la vaccination dans toutes les provinces. Comme vous le savez, on avait commencé par 4 provinces, maintenant nous sommes à 8 provinces. Et on va élargir vers le sud, Ubangi, la Tchopo, Kwilu, Kwango et Équateur. Alors, nous avons évoqué le problème de la communication. La communication a été entachée de réticences terribles. Comme vous le savez, la notion d'infodémie est à la une. Et cette notion d'infodémie, malheureusement, l'infodémie touche les personnes sur qui on a compté par le passé pour sensibiliser la population et mettre la population en confiance. Ces personnes-là, c'est notamment le personnel de santé, c'est des leaders et les intellectuels, malheureusement, sont touchés par cette infodémie qui utilisent principalement les réseaux sociaux. Et sur cet axe-là, nous sommes en train de travailler sur les mesures pour faire face à cette infodémie qui est responsable de toutes les réticences que nous sommes en train de constater actuellement. Alors, il y a d'autres aspects, c'est par exemple le type de vaccin AstraZeneca. Vous savez, l'AstraZeneca a eu pas mal de problèmes, que ce soit en Europe comme ailleurs, et ça fait que plusieurs personnes qui devaient se faire vacciner étaient devenues très réticentes. Cependant, nous avons mené une enquête rapide pour avoir le point de vue de la population. Et à l'issue de cette enquête, il y a au moins, heureusement, 75% de la population qui est prêt à se faire vacciner. Et de ces 75% de personnes qui veulent se faire vacciner, le choix du vaccin est tourné principalement vers le vaccin Pfizer, qui représente 30%, AstraZeneca 28% et d'autres vaccins comme Moderna et Sinopharm, etc.
Est-ce qu'ils vous ont dit pourquoi ils portent leur choix sur Pfizer? Qu'est-ce qui les pousse à choisir ces vaccins?
En effet, les raisons n'ont pas été évoquées. Mais on comprend que les gens portent leur choix sur Pfizer parce que dans d'autres cieux, lorsque AstraZeneca n'était plus en mesure de fournir les doses attendues, beaucoup de pays se sont tournés vers Pfizer. Alors, comme toutes ces personnes-là suivent les informations, malheureusement, ils comprennent mal, ils pensent que Pfizer est meilleur que AstraZeneca. Non. Seulement, AstraZeneca n'était plus capable de fournir les doses qu'il a promis à certains pays. Et on s'est réfugié vers Pfizer. Quoi, ça doit être ça la raison principale.
Ok. Plus de 45 000 personnes se sont fait vacciner sur 500 000 doses. Donc, cela veut dire que vous continuez à garder 450 000 doses. Est-ce que vous pensez, docteur, que d'ici le 11 juillet, vous aurez déjà utilisé ces 450 000 doses?
Bon, ces doses, nous les avons déployées vers les provinces. Alors, les 450, on ne doit pas les compter comme ça parce qu'il y a des pertes, en effet. Il y a des pertes. Donc, présentement, on est en train de répertorier les vaccins qui sont disponibles au niveau de nos dépôts provinciaux. Bon, sans compter sur les vaccins qui sont au niveau des sites de vaccination. Et nous avons autour de 150 000 doses. Donc, le reste, c'est au niveau des sites de vaccination. Et il y a des pertes, bien sûr. Comme les sites n'étaient pas suffisamment fréquenté, il n'y avait pas d'engouement. Donc, dès que vous ouvrez un flacon de vaccin et que vous vaccinez deux ou trois personnes, vous perdez 8 doses. Et toutes ces pertes-là sont comptées. Donc, on a perdu énormément de vaccins parce que la consommation était lente. Donc, les gens n'étaient pas au rendez-vous quand on les attendait. Comme vous le savez, ce vaccin, il suffit que vous ouvrez le vaccin, c'est fini. Donc, vous ne pouvez plus le conserver après l'avoir ouvert.
Et donc, les flacons contiennent 10 doses.
10 doses. 10 doses, tout à fait.
OK. Un lot de vaccins expire aujourd'hui. Entre-temps, la vaccination va se poursuivre, comme l'a précisé Madame la directrice de PEV. Quel mécanisme mettez-vous en place, docteur Chikomola, pour que l'on ne vaccine pas la population avec les vaccins déjà expirés? Parce que tout est possible, hein? Vous savez, nous sommes dans le monde des humains. Les erreurs peuvent être commises, comme il peut aussi y avoir des personnes mal intentionnées, n'est-ce pas, qui trafiquent ces vaccins alors que c'est un produit déjà expiré. Qu'est-ce que vous mettez en place comme mécanisme pour prévenir ce genre de situation?
Alors, tous les vaccins, en fait, une circulaire a été envoyée dès le début, et tous les vaccins remontent déjà au niveau des zones de santé, et les zones de santé sont en train de remonter tous ces vaccins qui sont dans le lot qui expire aujourd'hui vers les antennes. Et des antennes, on va remonter le vaccin au niveau de Kinshasa.
Merci, docteur Chikomola. Nous vous gardons encore dans cette émission. Professeur Gauthier Moussengue-Mwanza, vous êtes docteur en sociologie et professeur au département de sociologie de l'Université de Kinshasa. En 3 mois, la RDC a pu faire vacciner plus de 45 000 personnes. Au vu de ces chiffres, comment vous évaluez cette campagne de vaccination, docteur Gauthier Moussengue?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il se pose un problème très sérieux au niveau des campagnes de vaccination. Dans beaucoup de pays, nous avons vu la campagne de vaccination commencer par les gouvernants, donc les chefs de l'État, le premier ministre, les responsables de la santé, pour donner confiance à la population, parce que les dirigeants se sont fait vacciner. Donc les autres, malgré tout ce qui s'est dit de ce vaccin-là, les autres pourraient maintenant venir, pourraient faire confiance, parce que les responsables numéro un du pays se sont fait vacciner. Mais ce n'était pas le cas chez nous. Chez nous, on n'a pas vu les chefs de l'État se faire vacciner. On n'a pas vu les premiers ministres, les ministres de santé surtout, et les autres. On ne les a pas vus se faire vacciner. Alors, maintenant, les dirigeants, les gouvernants de notre pays qui ont donné l'autorisation de la vaccination dans notre pays ne se sont pas fait vacciner. Il se crée déjà une crise de confiance. Deuxièmement, même cette campagne de sensibilisation au niveau de la population n'est pas bien faite. Les gens ne sont pas vraiment bien informés sur cette vaccination. Parce que ça ne passe pas régulièrement dans les médias. Et à part ça, il y a surtout les réseaux sociaux qui donnent l'information. Vous savez que la majorité de la population a accès aux réseaux sociaux. Et nous suivons ce qui se passe ailleurs. Même dans les médias, nous suivons ce qui se passe ailleurs. On a dit dernièrement, par exemple, je pense que c'est au Seychelles ou un autre pays africain comme ça, c'est le pays le plus vacciné au monde. 65% de la population se fait vacciner. Mais, malheureusement, présentement, il y a un taux très élevé de COVID, donc des gens atteints de COVID dans ce pays-là. On a suivi ça dans les médias. Et vous voyez comment ça crée maintenant une crise de confiance vis-à-vis de cette vaccination. Eux-mêmes, en Europe, les Blancs qui se sont fait vacciner se plaignent. Nombreux font des déclarations en sensibilisant les Africains, leur demandant de ne pas se faire vacciner, parce que vous savez d'abord que le coronavirus, on a dit que c'était fabriqué. Bon, il reste à vérifier, mais c'est ce que nous avons appris. Nous avons appris que c'était fabriqué pour éliminer les Africains.
Oui, professeur Gauthier Moussengue, virus fabriqué, évidemment, c'est une opinion qui n'a jamais été confirmée par les scientifiques. Hein?
Bon, mais en tout cas, ça s'est dit.
Voilà, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais vous en tant que sociologue, maintenant qu'on annonce qu'il y a un lot qui un lot de ces vaccins qui expire déjà aujourd'hui le 24 juin, quelles sont les questions à votre avis que peut se poser cette population qui fait face à beaucoup d'informations au sujet de cette vaccination, quelles sont les questions que la population peut se poser et auxquelles il faut urgemment apporter, n'est-ce pas, des réponses dans le sens d'encourager cette population à pouvoir se faire vacciner?
La population se pose la question, si je me fais vacciner, est-ce que je ne veux pas précipiter ma mort? C'est ça la grande question. Tout le monde voit, tout le monde croit que si je me fais vacciner, je vais précipiter ma mort. Alors, il faut maintenant utiliser tous les moyens possibles pour convaincre les gens que ce vaccin n'amène pas à la mort, n'amène pas à la mort. Sinon, cette information reste parce qu'on les suit dans les réseaux sociaux. Il faut maintenant convaincre les gens. Mais il faut commencer par les chefs. Il faut que les chefs du pays, les gouvernants, commencent par se faire vacciner et que les gens soient convaincus que réellement les chefs se sont fait vacciner. Parce qu'on n'a jamais vu nos gouvernants se faire vacciner. Et aussi, il faut que les gens soient convaincus que le même vaccin ici, qu'on a piqué aux chefs, aux gouvernants, qui ont autorisé l'entrée du vaccin, que c'est le même vaccin qui sera reçu par la population. Sinon, il y aura toujours crise de confiance.
Oui, professeur, il y a ici trois niveaux d'analyse. Hein. Il y a les vaccins lui-même, dont vous avez évoqué toute la campagne qui a été faite contre lui. Il y a cette campagne de vaccination qui a souffert, selon vous, d'un déficit de communication. Mais il y a aussi la population. Hein. La fois dernière, quand on avait, dans la même émission, quand on avait fait avec vous, quand on avait analysé la même question, on avait évoqué la possibilité, n'est-ce pas, de jouer sur la communication en utilisant des images qui marquent la population. C'est comme, par exemple, filmer les hôpitaux où sont soignés les malades, montrer des personnes qui sont, n'est-ce pas, connectées au respirateur sans pour autant montrer leur visage, et que ces images-là pourraient pousser la population à aller se faire vacciner. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas encore ce type de communication, mais aujourd'hui, nous avons des faits qui démontrent, n'est-ce pas, que la troisième vague est en train de faire beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de morts, mais en dépit de ça, la population maintient sa position, la population refuse toujours de se faire vacciner. À votre avis, il faut faire quoi pour que cette population puisse accepter de se faire vacciner? Comment vous expliquez la psychologie de cette population qui, en dépit de toutes ces informations-là, maintient sa position?
Mais il y a d'abord un problème de communication avec la population. La population n'est pas informée. Tout le monde a l'information des réseaux sociaux. Donc, il faut qu'il y ait des informations qui viennent des sources sûres. Par exemple, des médecins, par exemple, les ministres de santé, ainsi de suite. Les gens ne sont pas informés. J'ai suivi dernièrement, je pense que c'est hier ou avant-hier, on avait envoyé, il y a eu un responsable de santé, je ne sais pas si c'est le ministre, qui a dit qu'ils avaient demandé l'avis de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa sur le vaccin. Mais les gens ne savent pas ça. Les gens ne sont pas informés de ça. Si on peut dire aux gens que ce vaccin-là sont évalués, il y a un examen de ce vaccin qui se fait au niveau des cliniques universitaires, par nos concitoyens, par les médecins congolais, et ils ont donné un avis favorable. Mais ça va, ça peut convaincre les gens, parce que les gens diront non, comme la confirmation vient de nos compatriotes, des Congolais, des médecins congolais, parce que nous ne croyons pas que ces médecins congolais peuvent chercher la mort de leurs compatriotes, donc ils peuvent accepter. Mais les gens ne sont pas informés de ça. Si on peut dire comme ça, montrer à la population que ces vaccins qui sont venus de l'Europe sont passés par les cliniques universitaires qui ont examiné, qui n'ont rien trouvé de nocif et qui confirment que nous pouvons bien prendre ce vaccin pour préserver notre santé, je pense que les gens vont comprendre, les gens peuvent accepter.
Merci.
Mais les gens n'ont pas d'informations. On se fie maintenant aux réseaux sociaux. Et vous savez, les informations au niveau des réseaux sociaux sont des informations qui n'encouragent pas la vaccination. Qui va accepter de se faire vacciner quand on voit tout ce qui se dit et tout ce qui se fait dans les réseaux sociaux?
Merci.
C'est ça le problème.
Merci, nous vous regardons encore dans cette émission. Danis Ngoma, directeur général du CNADEP et coordonnateur de la dynamique citoyenne COVID-19. Vous êtes aussi coordonnateur du cadre des concertations nationales de la société civile. Et comment vous évaluez cette campagne de vaccination 3 mois après?
Oui, bonjour, merci. Je m'excuse d'abord du retard. La campagne qui a commencé, bon, c'est difficile de l'évaluer parce que d'abord nous, la société civile, nous réclamons toujours d'avoir un cadre structurel d'évaluation, mais jusque-là, nous n'arrivons pas à l'obtenir. Et je pense encore que c'est l'occasion. Le docteur Chikomola qui est là, je lui adresse aussi ce plaidoyer pour aider à ce que la société civile soit vraiment impliquée dans l'évaluation de cette dynamique, de ce processus ou de ce combat. Aujourd'hui, 45 000 personnes, c'est déjà une bonne chose d'atteindre ces chiffres. Si on fait des calculs par rapport au nombre de la population, sur la population active qu'on peut estimer peut-être à 45 millions ou 50 millions, 45 000 personnes, ça représente peut-être, je ne sais pas s'il faut dire quel pourcentage, peut-être moins de 1%. Donc ça pose encore problème, mais c'est déjà un pas en avant. Mais il faut aussi savoir quelle est la catégorie de personnes qui s'est fait vacciner. Nous savons qu'il y a des ambassadeurs, il y a des ONG internationales, il y a tous les personnels humanitaires et tout ça qui constituent la plus grande partie de ceux qui se font vacciner. Donc il y a encore un effort à faire, comme l'a dit mon prédécesseur, pour que les Congolais lambda, tout le monde puisse aller se faire vacciner. Mais ça, ce n'est pas encore donné. La perception populaire demeure encore très négative par rapport au Covid, parce que je peux estimer qu'il existe ce qu'on peut appeler des covido-sceptiques, des ni sceptiques ni convaincus, et aussi des personnes qui sont convaincues quand même que la maladie existe. Donc par rapport à tout ça, il faut un travail de fond, et nous avons dit que la communication pose problème. La communication s'améliore de certaines façons, mais comme l'a dit mon prédécesseur, les gestes qui constituent la communication posent problème, parce que si les dirigeants, si les autorités au plus haut, au sommet de l'État, ne montre pas l'exemple, ça sera un problème. Mais le président de la République a promis, et cela a donné encore un autre élan. Les gens attendent. Il a promis que lui-même va montrer l'exemple. Et ça, les gens attendent parce qu'ils attendent aussi un autre type de vaccin, parce qu'il y a eu tout ce qui s'est dit autour de l'AstraZeneca, comme a dit le docteur Chikomola. Il a raison. J'étais en Europe, j'ai posé cette question. On m'a bien dit que ce n'était pas un problème d'efficacité de l'AstraZeneca, mais c'était la question de livraison qui a posé problème et qui a remis en doute la capacité de production de cette usine pour ne plus la faire confiance et demander d'autres vaccins. Tout ce qui est véhiculé par les réseaux sociaux pose problème. J'avais dit, et nous le répétons, il faut une contre-attaque médiatique et aussi sur Internet pour pouvoir... On ne fait pas de contre-attaque, on laisse que des messages soient véhiculés par des groupes, n'importe quel groupe de fanatiques contre la vaccination, contre le Covid, et il n'y a pas une mesure, il n'y a pas une stratégie qui est mise en place pour contrer ce type de communication. Et ça, ça pose problème. Les leaders d'opinion ne sont pas sensibilisés. Les leaders des associations qui sont très proches de la population ne montrent pas l'exemple parce qu'ils ne sont pas impliqués dans cette lutte. Et c'est ça que nous demandons. Il faut vraiment rectifier les tirs, impliquer au plus fort la société civile. Nous sommes le cadre de concertation. Nous sommes là. Nous avons des représentants dans toutes les provinces. Nous pouvons faire ce travail avec le gouvernement, nous concerter, évaluer régulièrement et voir quelles sont les méthodes qui peuvent être appliquées pour avoir une bonne méthode de communication qui convainc les gens. On n'aura pas les 100%, mais on aura quand même une grande partie de la population qui peut accepter de se faire vacciner parce qu'il est convaincu, il n'a plus peur. Mais aujourd'hui, c'est difficile de convaincre les gens et nous continuons dans cet état-là, bien que aussi, par la force des choses, en voyant ce qui se passe ailleurs, les gens prennent quand même un peu de confiance et tout ça. Mais on a vu ce qui s'est passé hier, ça réduit encore beaucoup de chances. Parce qu'on a vu, les gens se sont... Et quand ils se fâchent, on a mis des mesures de 50% dans les bus, mais parce qu'il n'y a pas de solution alternative, on lâche la mesure comme si on faisait quelque chose de blague. Alors que ce sont ces mesures qui interpellent les gens. Quand la mesure est très forte, les gens s'interrogent pourquoi une mesure est forte. C'est une sorte de communication. Mais quand ça lâche, ça réduit les chances de réussite. Et tout ça, ça lâche parce que ces mesures de communication n'ont pas été préparées avec la population, avec les représentants de la population qui nous sommes la société civile.
Voilà, vous avez dit qu'il faut une contre-offensive médiatique, mais cette contre-offensive médiatique viendrait d'où? Dès lors que vous avez suivi le professeur Gauthier Moussengue qui parle d'un manque d'information et même au sein du monde scientifique congolais, et même les scientifiques congolais n'ont pas assez d'informations, n'est-ce pas, par rapport à ces vaccins, et lui avait souhaité que l'on puisse demander aux scientifiques congolais de pouvoir se réunir, n'est-ce pas, autour de ces vaccins et de pouvoir donner un avis. Et peut-être que cela pourrait mettre en confiance la population congolaise. Et donc, on ne sait pas faire cette contre-offensive médiatique aussi longtemps que même nous, les Congolais, même parmi les scientifiques, les gens n'ont pas assez d'informations. Ils vont communiquer sur base de quoi dès lors qu'il y a ces déficits d'informations.
Oui, vraiment, je regrette que le docteur Mouvoudi ne soit pas là, parce que je pense qu'il a toute une pile des revendications que nous faisons tous les jours. Et vous-même, Radio Kabu, vous pouvez documenter nos revendications dans cette émission où les autorités participent. Ça fait combien de temps que nous disons cela? Il faut associer les scientifiques congolais, mais pas seulement les associer dans une réflexion, mais les associer dans la solution, l'appropriation. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a un combat? Au niveau de l'Union africaine, au niveau des États du Sud, ils ne font pas un combat pour qu'on puisse sursoir un peu, avoir un moratoire sur la propriété intellectuelle. Il faut que la propriété intellectuelle puisse être en berne pendant ce temps, comme l'a proposé le président des États-Unis, afin que les pays qui le peuvent commencent à produire des vaccins. Et aussi, les États devaient revendiquer la capacité de transfert des compétences, comme aujourd'hui l'Afrique du Sud est en train de les revendiquer, de transférer les compétences au niveau des États africains, afin que nos laboratoires puissent les produire, même si c'est à faible quantité. Mais dès qu'on verra que ça commence à se faire, on l'a vu avec Ebola, dès qu'on a dit que c'était un vaccin produit au Congo alors qu'il n'était pas réellement congolais, tout le monde, les gens ont eu confiance en ces vaccins. Et c'est ça. Nous avons des scientifiques congolais qui ont travaillé, mais ils sont découragés un peu, je pense, parce qu'ils ont mené des recherches, on a eu des monacovides et tout, on a vu sa mort qui a été très, très mal interprétée et tout. Et tout ça, ce sont des choses qui découragent. Mais quand on voit que les scientifiques sont pris en charge, ils sont considérés dans ce qu'ils font, on fait une publicité autour d'eux, la population comprend que c'est ça, notre salut vient de ces scientifiques. Je pense que quand les scientifiques parleront, ils auront à bien mobiliser la population. Et c'est une partie de la communication. Les scientifiques ne sont qu'une partie de la communication. Mais il y a aussi d'autres acteurs majeurs qui doivent être associés, non pas simplement les... Imaginez-vous quand vous allez dans les... Il y a des églises. Les églises ne véhiculent pas le message en faveur des vaccins. Les partis politiques, ils se réunissent, ils parlent, mais ils ne parlent pas des vaccins. Alors que ce sont des endroits où les leaders d'opinion peuvent s'exprimer pour sensibiliser la population d'abord à comprendre que la maladie existe et en plus à se mettre tous dans la lutte. Mais toutes ces catégories ne sont pas mobilisées pour faire partie réelle de la lutte parce qu'il n'y a pas de conviction ou alors ils ne veulent pas développer un message qui sera contredit par leurs partisans ou par leurs fidèles. Et c'est là où le travail doit se faire. Et moi je pense que si au niveau de l'aspect civil est réellement impliqué dans les mécanismes, nous allons bien travailler pour comprendre, ça ne sera pas simplement aveuglement pour dire aux gens parce que nous sommes impliqués alors qu'on prenait. Non, nous avons dit, comme l'a dit mon prédécesseur, il nous faut que le gouvernement, que nos scientifiques, que le ministère de la Santé nous convainquent de l'efficacité de ces vaccins. Qu'ils nous convainquent que ces vaccins ne sont pas nocifs. Et dès que nous serons convaincus, parce qu'il y a une chose, les vaccins peuvent être bons, comme je l'avais dit encore dans d'autres éditions, les vaccins peuvent être bons, mais tous les systèmes de conservation, tous les systèmes de distribution peuvent poser problème. Il faut que tous ces éléments soient réunis pour que nous soyons sûrs que nous avons des bons vaccins qui répondent aux normes et qui ne sont pas offensifs pour la population. Et à ce moment-là, quand il y aura beaucoup de discours convergents, croisés autour de l'efficacité des vaccins, de la nécessité de la vaccination, les gens vont aller. Mais qu'on ne mette pas seulement l'accent sur la vaccination, il y a aussi d'autres méthodes, les soins lui-même, on doit mettre l'accent sur tous les aspects. Que ce soit au niveau curatif et au niveau préventif, il faut que le message soit véhiculé en tout, mais le plus grand message doit être de convaincre d'abord les gens de l'existence et de la nocivité de ce coronavirus. Quand on aura atteint ce niveau d'expliquer à la population, de les convaincre que la maladie existe, alors la population... Il faut savoir qu'à un moment, au niveau aussi des vaccins de la poliomyélite, ça s'était posé aussi un problème comme ça. À un certain moment, les gens avaient peur de faire vacciner leurs enfants de la poliomyélite parce qu'ils disaient qu'on nous envoie la poliomyélite pour nous rendre stériles, pour ceci ou cela, parce qu'il y avait des discours qui étaient développés à partir du Nigeria où il y avait des conséquences avec certains vaccins. Et ici, à un certain moment, c'était arrivé. Mais avec la communication, avec les relais communautaires et tout, on est parvenu à vaincre et surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de commercialisation autour de ces vaccins. Il n'y a pas que l'inventaire des vaccins contre le polio avait délaissé, il avait abandonné la propriété intellectuelle et il n'y a pas beaucoup de commercialisation autour de cela. Mais ici, pour le coronavirus, c'est vraiment un aspect commercial versus aspect social et qui dérange.
Merci, docteur Aimé Tshikomola. Lorsque vous suivez les uns les autres, vous vous rendez compte qu'il y a un problème sérieux d'adhésion de la population, n'est-ce pas, à cette campagne de vaccination. Et à votre avis, vous qui êtes des PEV, quelle stratégie le gouvernement congolais devrait mettre en place pour une adhésion massive, n'est-ce pas, de la population à cette campagne? Vous avez suivi le professeur Moussengue et cela a été même soutenu par M. Dany Singoma sur le fait que les scientifiques congolais devraient aussi s'approprier ces vaccins. La population est méfiante vis-à-vis des vaccins et nous avons des scientifiques qui ne disent absolument rien et lorsque même vous avez certains scientifiques en aparté, vous vous rendez compte qu'elles non plus n'ont pas assez d'informations par rapport à ces vaccins. Et qu'est-ce que vous proposez? Quelle est la stratégie la plus efficace, docteur Aimé Tshikomola?
Merci beaucoup. Je pense que effectivement, ce que viennent de dire mes prédécesseurs, c'est vrai qu'il y a un souci dans les communications. Il faut dire que les réseaux sociaux ont commencé à diffuser des mensonges par rapport à la vaccination avant même que le vaccin soit fabriqué. Donc, ça fait une année que des faussetés circulent sur des réseaux sociaux et on doit mettre en place une surveillance médiatique sous les réseaux sociaux pour faire face à tout cela. Il y a effectivement le ministère de la Santé qui bientôt va lancer une campagne pour renforcer la communication. Je suis d'avis que la communication devra être renforcée. Et nos portes sont ouvertes en effet pour la société civile, parce que on a toujours travaillé avec la société civile, c'est un canal très important. En tout cas, c'est un partenaire sur qui nous comptons, même dans la vaccination de routine.
Mais elle n'est pas associée, hein. Vous avez suivi M. Dany Singoma, qui rappelle ici qu'ils ont toujours réclamé un cadre structurel d'évaluation, mais qui n'est toujours pas effectif.
Un cadre structurel, ça je comprends, mais cependant, il y a la société civile est bénéficiaire depuis longtemps des ressources que nous mobilisons auprès des Gavi pour appuyer la communication et renforcer la génération de la demande pour la vaccination. Depuis longtemps, chaque fois que nous soumettons des programmes à Gavi pour appuyer le pays par rapport à la vaccination, il y a toujours un volet qui est pris par la société civile et la société civile reçoit du financement dans ce sens. Et c'est souvent à travers Sanrou, qui est une ONG qui a appuyé depuis longtemps les soins de santé primaires dans notre pays. Donc, j'aimerais quand même qu'on se rencontre avec Dany Singoma pour discuter très clairement et autour d'une table comment nous pouvons faire pour améliorer la communication par rapport à cela. Mais je retiens que la société civile, c'est notre partenaire. On ne peut pas s'en passer. Et on travaille toujours avec la société civile à travers Sanrou.
On a aussi relevé, n'est-ce pas, parmi les éléments d'analyse qui peuvent, n'est-ce pas, expliquer cette réticence de la population, il y a cette faible implication des dirigeants à tous les niveaux, hein, pas seulement les niveaux politiques, mais à tous les niveaux, même au niveau religieux, les dirigeants ne donnent pas l'exemple. Par rapport à cette question précise, le PEV envisage quoi?
Bon, je pense que le 19 avril, la première personne qui a été vaccinée, c'est le ministre honoraire, Dr. Eteni Longondo. C'était lui le ministre de la Santé, c'est le numéro un du secteur santé. C'est la première personne qui a reçu sa première dose et maintenant là, le ministre honoraire a reçu sa deuxième dose le 14 juin. Et ce que j'ai aimé en lui, il a reçu sa deuxième dose et il a fait un témoignage à la radio Top Congo. Et moi-même, je l'avais suivi. Peut-être qu'il n'est pas intervenu dans les réseaux sociaux qui est plus utilisé, mais comme l'a dit Dany Singoma, je pense qu'il nous faut vraiment une contre-offensive à travers les réseaux sociaux.
Professeur Gauthier Moussengue, vous en tant que sociologue, quel peut être votre travail, n'est-ce pas, dans cette campagne de sensibilisation? Comment on peut vous mettre à profit dans les concrets, hein, pour que vous puissiez aussi aider le PEV ainsi que tout le gouvernement congolais de pouvoir convaincre la population à pouvoir adhérer de façon massive à cette campagne de vaccination?
Pour que les sociologues interviennent dans la campagne, nous devons nous rassurer d'abord des scientifiques de la médecine qui doivent nous confirmer que, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses sur le vaccin, nous attendons que les médecins congolais, les scientifiques médecins congolais, nous confirment que, par exemple, les étudiants universitaires, le doyen de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa passe dans les médias, confirmer que ce vaccin est très bon pour nous, pour la santé de la population congolaise, et à ce moment-là, les sociologues qui font confiance aux scientifiques congolais peuvent intervenir pour convaincre la population, leur faire voir que ce vaccin est important pour notre santé, et tout le monde, nous devons l'avoir. Donc, sans avoir associé les scientifiques congolais, il est difficile aux sociologues d'intervenir pour aider la population à se faire vacciner. Parce que on n'a pas d'informations sur le vaccin. Nous devons d'abord avoir l'information sur le vaccin. Nous rassurer que ce vaccin est salutaire pour notre santé. À ce moment-là, tout le monde peut facilement donner sa contribution. Alors si, toujours dans des réserves, les autorités sont très réservées, ainsi de suite, les responsables sont très réservés, personne ne va s'y engager.
Alors, un autre élément, c'est la diversification des vaccins. Hein. Cela est envisagé, oui. Madame, oui. La directrice des PEV l'a annoncé. Et oui. Est-ce que vous pensez que la diversification des vaccins peut changer la donne, peut améliorer, n'est-ce pas, cette couverture vaccinale, peut pousser les gens à faire confiance aux vaccins et à se faire vacciner?
Il y a certains vaccins qui n'ont pas une bonne réputation. Et d'autres qui sont quand même acceptés. Bon, mais c'est question de nous rassurer que tous ces vaccins-là n'ont pas de problème de santé. Et c'est vrai, la diversité pose problème aussi, parce qu'il y a certains vaccins qui n'ont pas de bonne réputation. On a déjà parlé de mal de ce vaccin, et certains pays ont même interdit l'usage de ce vaccin-là. Donc, c'est ce qui fait que ça gêne, ça pose des problèmes. Il faut que le gouvernant de notre pays puisse faire confiance à une espèce de vaccin, par exemple, et puis s'atteler sur ça, que les scientifiques interviennent pour confirmer que ce vaccin-là n'est pas dangereux, et à ce moment-là, les gens peuvent facilement prendre.
Denis Ngoma, à votre avis, quelle autre stratégie le gouvernement peut mettre en place pour renforcer cette campagne de vaccination afin de pouvoir pousser la population à se faire vacciner? Parce que les scientifiques disent que c'est l'unique moyen pour créer ce qu'ils appellent immunité collective face à cette maladie.
Oui, bon, je pense que nous avons épuisé vraiment les stratégies dans tout ce que nous avons dit, mais j'aimerais, comme je l'ai dit, j'insiste, que la plus grande stratégie devait être celle d'associer la société civile. Je n'en disconviens pas que sans roue et vraiment un bras de mise en œuvre de la politique peut-être ou des actions de vaccination et d'autres actions sanitaires, parce que c'est une grande structure, mais sans roue n'est pas une organisation de plaidoyer ou une organisation qui travaille sur la dimension politique de la société civile. C'est à cette dimension-là que nous voulons travailler avec le gouvernement. Ça veut dire, le cadre de concertation, son rôle, c'est de se concerter avec les institutions du pays sur la façon de mettre en œuvre les politiques. Et c'est ça que nous sommes en train de revendiquer, cet espace structuré où nous pouvons intervenir. Et je pense que ça, c'est vraiment une stratégie qui peut renforcer en voyant qu'il y a cette table de négociations, de communication, d'évaluation permanente entre les gouvernements et les acteurs de la société civile sur cette question, sans oublier cette main de Sanrou qui doit continuer à faire son travail, mais qui aura plus d'efficacité en étant appuyée par les restes de la société civile de manière approfondie politique et sur cette question. Et aussi, c'est l'ensemble des communautés de la société civile en voyant l'action du cadre de concertation qui vont se mobiliser pour appuyer indifféremment d'être à sa roue ou pas, d'appuyer la sensibilisation sur ça. Donc il faut étendre cette sensibilisation au niveau du public, au niveau de la société civile, et je vous assure qu'il y aura beaucoup d'efficacité. Mais il faut aussi un travail, parce que souvent, quand la campagne de beaucoup de campagnes de communication qui commencent dans notre pays, ce sont des visites à la télévision, à la radio, on fait un spot publicitaire et tout, et ça se limite là-bas. Il faut que ça aille au-delà des scénarios. Il faut aller convaincre ces leaders d'opinion qui sont les églises, qui sont les partis politiques, à pouvoir adhérer. Ce sont surtout dans ces milieux-là où on véhicule des messages vraiment contre et qui sont contre-productifs et qui ne permettent pas que la stratégie puisse réussir.
Merci.
Si on arrive à les convaincre, c'est une chose, mais aussi utiliser tous ces influenceurs des réseaux sociaux, les convaincre aussi, les identifier, les convaincre, en fait qu'ils balancent des messages sur des réseaux sociaux. Les jeunes ont beaucoup de compétences
Merci.
Que les vieux aujourd'hui n'en ont pas. Cette manière de communication, il y a ce qu'on appelle des influenceurs qui peuvent lancer des messages extraordinaires et ils connaissent le langage qui doit et qui comprennent ceux qui fréquentent ces milieux d'Internet, de TikTok.
Merci, Dani Simoma. Merci. Merci. Nous sommes à la fin de l'émission. Docteur Aimé Tikomola, c'est quoi votre conclusion? Quel est le message, n'est-ce pas, que vous voulez donner à la population pour la rassurer par rapport aux avantages de cette vaccination?
Merci beaucoup. Je crois que le message, il est unique. Le seul moyen pour le moment pour prévenir cette maladie est que la population revienne à ses activités comme par le passé, c'est la vaccination. Et c'est le cas actuellement, vous voyez, avec les matchs en Europe, les stades sont ouverts maintenant au public, c'est grâce à la vaccination. Voilà le message. Et peut-être dire aussi à Dani Singoma que les portes sont ouvertes, en tout cas, pour échanger davantage sur tous ces points de vue. Merci.
Voilà, il y a aussi les sociologues qui voudraient aussi être associés. Je pense qu'il faut aussi
penser à eux. On ne l'exclut pas.
Okay,
les exclut pas.
Merci. Ouais. Professeur Gauthier Moussengue Mwanza, votre conclusion?
Ma conclusion est celle-ci. Les responsables de notre pays sont à la base de cette défaillance, des difficultés qu'on éprouve dans la campagne de vaccination. Si la population ne se fait pas vacciner, ce sont eux qui sont à la base de ça, parce que tout le monde, à tout niveau, est très réservé vis-à-vis de ce vaccin. Alors, ces réserves des responsables du pays font que la population a peur, parce que la population s'attelle aux informations qui viennent des réseaux sociaux. Donc, il faut que chacun s'engage, il faut que les responsables du pays prennent les responsabilités pour que la campagne de vaccination réussisse.
Merci. Dani Singoma, votre mot de la fin?
Je remercie le docteur Tikomola pour son beau mot qui nous va droit au cœur. Nous l'encourageons dans le travail qu'il fait et nous pensons que c'est très utile d'avoir un sans gêne au programme élargi de vaccination. Et aussi, nous interpellons les autorités du pays à faire mieux d'alléger la souffrance de la population, à ne pas les énerver avec des mesures qui ne permettent pas une adhésion collective à cet effort de lutte contre le Covid. Ça veut dire quand il y a des mesures qui sont faites, il faut que ce soit des mesures concertées et qui permettent à la population de pouvoir les comprendre, d'adhérer et de se mobiliser et non de se décourager. Et je pense que là, nous allons vaincre et je remercie Radio Capi pour cette opportunité et encore de continuer.
Merci, merci à vous, docteur Aimé Tikomola, professeur Gauthier Moussengue Mwanza et Dani Singoma. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est la fin. Jean-Noël Mokondo était à la technique. Et Kelly Nkoutedona Madimba ont réalisé cette émission sous la supervision de Martin Serujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon suite du programme sur Radio Capi.